le plateau qui parle. Suite aujourd'hui des extraits du débat qui s'est tenu samedi dernier au café Le Fabuleux Destin à Aubusson au sujet de la forêt. Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour partager leurs informations et leurs points de vue au sujet des forêts limousines. Vous avez déjà pu entendre deux extraits du débat hier ou vous pouvez les retrouver sur radiovastivière.com. Pour ce troisième volet, voici cinq courts extraits qui aident à comprendre ce qui se passe dans la filière bois. La place prise par les chaudières à bois ou chaufferies biomasse. Comment l'importation ou la copie de machines de sciage, appelées canter, fait singer des modes de production venus d'Europe du Nord. Comment les petits propriétaires sont souvent amenés à vendre leur bois pas cher. Deux questions à poser à un technicien forestier. Et enfin, cinquième extrait, une remarque sur la contradiction entre un système économique qui voit à court terme et des arbres qui voient à long terme.
La biomasse, c'est la nouvelle ressource énergétique. C'est certifié vert durable. Pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir du gros bois. Et c'est notamment un problème qu'ils ont par exemple en Dordogne, où ils ont du châtaignier qui conduisent en taillis. Donc en gros, un taillis, c'est que du petit bois. Vous rasez tout, ça repousse de la souche, et vous faites ça pendant 20, 30, 40 ans, et puis au fur et à mesure, vous rajoutez un petit peu plus de pesticides et d'engrais, parce que ça produit de moins en moins, donc il faut compenser. Mais pour ça, ça marche bien pour faire de la biomasse. Et ça, c'est le nouveau débouché, qui du coup vient en concurrence avec Isoroy. Isoroy s'est retrouvé en rade à l'été, parce qu'ils n'avaient plus assez de camions pour pouvoir approvisionner leur usine. Ils ont arrêté les chaînes pendant 2-3 jours, parce qu'il n'y avait pas assez de camions qui arrivaient. Et du coup, ça montre bien qu'il y a une concurrence sur la ressource, avec la biomasse, qui est le nouveau secteur. Je suis étonné tout à l'heure que quand ils récoltaient les souches, mais maintenant pour la biomasse, ils t'embarquent un arbre en entier, c'est-à-dire qu'ils le déracinent, ils le foutent sur le camion, ils partent avec les branches, les aiguilles, la souche, il ne reste plus rien au sol. Jusque-là, en exportant que les grumes et en laissant les branchages et les souches, ça permettait de laisser quand même une proportion assez importante des minéraux pour que ça se recycle. Alors après, quand ils les foutent en un... De toute façon, vous le voyez bien, dans une parcelle forestière, ça pousse vachement sur les andins, puis à côté, vous avez des arbres qui sont rikiki. Maintenant, il y aura de moins en moins d'andins, parce qu'ils récupèrent les arbres avec les branches, ils récupèrent les souches dans les andins qui passent au broyeur. Tout ça, ça fait de la plaquette qui passe dans les usines, dans les chaufferies. Quoi.
Sur les lignes canter, c'est aussi que les lignes canter, ça vient des pays du Nord, où les arbres, ils poussent dans le froid, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas gros. Mais c'est des arbres, voilà, donc ils ne deviennent jamais gros. C'est pour ça que les lignes canter qui viennent du nord sont des lignes qui scient que du petit bois. Le truc, c'est que là-bas, comme ils ne poussent pas vite, le bois, c'est du bois de qualité. Et donc nous, on singe avec les mêmes machines les pays du nord, là où ils ont, eux, des étendues encore beaucoup plus vastes que chez nous, donc plus faciles à récolter, avec du bois de qualité. Tant et si bien que quand on valorise pour faire des maisons, il y a des lois, des machins, des incitations qui sont faites pour construire des maisons en bois, mais il y en a 70% qu'il faut prendre dans les pays nordiques. C'est pour ça qu'on importe aussi du bois. Parce que notre bois, il est trop merdique quand tu le coupes à 30 ans ou à 40 ans pour pouvoir faire du bois d'œuvre. Alors que dans le nord, oui. Et voilà. Et donc, on est sur un truc de débile mental. C'est-à-dire qu'on est en train de se faire harakiri dans 20 ans. Tout ça va s'écrouler, quoi. Et on aura tout niqué entre-temps.
Il y a aussi un phénomène par rapport à la question de propriété et des parcelles. C'est quand même, on a, alors sur les vaches, sont un peu plus grandes les parcelles forestières, mais on a globalement en Limousin des parcelles petites. La moyenne, je crois, c'est 4 hectares en Limousin, des propriétaires forestiers, et les vaches, ça monte jusqu'à 8 hectares. Mais les parcelles sont petites, du coup, si vous avez 4 hectares, vous n'êtes pas forestier, ça ne vous intéresse pas, vous avez pas, votre vie ne se joue pas par rapport à ces 4 hectares. Du coup, quand un marchand de bois vient vous voir et vous dit, je veux vous faire un truc, vous nettoyez votre parcelle, il faut y faire des choses, machin, vous ne connaissez rien, vous êtes prêt à signer à peu près n'importe quoi. Et nous, on entend des choses où, sur le plateau notamment, il y a un plus gros propriétaire qui va vendre du bois sur 15-20 hectares, voire plus. Et donc là, et ça intéresse les coopératives ou d'autres acteurs, CBB et tout ça, et ils viennent, ils amènent les engins, et après, ils font la prospection tout autour de tous les petits qui n'ont jamais eu l'idée de vendre quoi que ce soit ou qui n'ont jamais géré. Et eux, alors éventuellement, le plus gros, peut-être qu'il va moins se faire arnaquer, parce qu'il connaît un petit peu, ou il est bien conseillé par un expert. Vous pouvez espérer, en tout cas, parce que bon, dans IPMS, il y a des articles récents qui montrent que c'est pas toujours aussi simple que ça, les experts forestiers. Mais en tout cas, les tout petits, eux, ils vont se faire plumer. Plumer. Et on va leur dire, on va vous nettoyer votre forêt. Et alors là, c'est du 1 euro, c'est...
Quand un marchand de bois ou un forestier, entre guillemets, parce que j'appelle pas ça des forestiers, viennent vous proposer quelque chose, il y a deux questions à lui poser. Déjà, la première, si une personne arrive en disant, grosso modo, ça, ça vaut rien, ou il n'y a que ça à faire, déjà, tu l'écoutes pas. Tout simplement parce qu'en forêt, c'est comme en médecine ou en agriculture, la pensée unique, ça n'existe pas. Il y a différentes façons de gérer une forêt, comme il y a différentes façons de se soigner ou différentes façons de faire de l'agriculture. Donc le gars qui va imposer quelque chose, déjà, faut s'en méfier. Et la deuxième chose, c'est poser lui la question sur est-ce qu'il a des objectifs de quantité dans son travail. Et si cette personne a des objectifs de quantité dans son travail, elle ne peut pas agir comme un forestier, c'est-à-dire dans le fait de faire perdurer un patrimoine, tout simplement parce qu'elle se trouve prise dans un conflit d'intérêts. Entre le fait de, effectivement, dire bah, on va préserver un patrimoine, mais en même temps, quelque part, on me demande de produire 20 000 mètres cubes par an. Et les coopératives forestières, par exemple, sont typiquement là-dedans. Une coopérative forestière se pose comme un gestionnaire de forêt privée en disant on va entretenir votre patrimoine, mais en même temps, derrière, elles font de l'exploitation et de l'approvisionnement. Avec des objectifs, les techniciens ont des objectifs minimums à faire, sinon ils sont virés. Comment voulez-vous, quelque part, faire un travail correct de forestier si vous avez des objectifs de quantité et de chiffre d'affaires à faire derrière? C'est pas possible. Même si vous voulez faire, moi je l'ai été, même si vous voulez faire de la futaie, jardiner et tout, derrière, il y en a qui poussent en disant « Mais mon gars, t'as 150 000 euros à peine par an, là. D'accord? Faut que tu nous rapportes 150 000 euros. » Donc le gars, il est pris. Ce ne sont pas des forestiers. Ils n'agissent pas comme des forestiers. Ils achètent, ils agissent comme des commerciaux. Et ça, c'est important d'avoir cette vision-là et donc d'informer aussi les propriétaires qu'il existe plein de façons de faire de la forêt qui peuvent être aussi rentables et qui sont moins traumatisantes et qui permettent surtout de garder le capital sur pied. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut savoir. C'est vrai que le propriétaire, le petit paysan qui a 2 hectares, on lui propose un chèque de allez, 10 000 euros ou 8 000 euros pour sa coupe de bois à ras. Bon, ben, c'est un peu le pactole. Ouais, sauf qu'il se retrouve avec un champ de ruines pendant 50 ans derrière. C'est-à-dire que le terrain, s'il veut le transmettre à ses enfants, il ne vaut rien du tout. Il n'y a plus de capital sur ce terrain. Il n'y a plus que de la broussaille. Alors qu'effectivement, en mettant en place d'autres techniques, on peut sortir du bois plus régulièrement, tout en maintenant, on va dire, un patrimoine forestier, paysager, écologique et économique.
Alors la question, c'est, ok, d'accord, mais quand tu es propriétaire, à qui tu t'adresses pour avoir ces conseils si judicieux?
L'idéal, c'est de se poser sur des gens qui sont, ça existe en France, notamment les techniciens forestiers indépendants.
Ça existe,
il y a une association nationale des techniciens indépendants. Ils ne sont pas très nombreux, il y en a deux en Creuse, deux, trois en Creuse, et qui ont justement ce côté indépendance, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants d'une filière. Alors, on n'est jamais complètement indépendant, entre guillemets, parce que, je veux dire, quand on coupe du bois, il faut aussi le vendre, donc le marchand de bois a aussi son utilité, hein. Mais ils sont indépendants dans la gestion du patrimoine, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas atteints à des objectifs autres, ils viennent pour conseiller un propriétaire sur la gestion de son patrimoine.
Ils vont d'abord écouter ce propriétaire.
Voilà.
Dans l'Oregon, il commence à devenir intéressant pour la biodiversité à accueillir un cortège d'espèces, c'est-à-dire à devenir adulte, à l'âge de 150 à 200 ans. Ici, les Douglas, on les coupe à 30 ou 35. Forcément, on coupe des bébés. Et ça, c'est pas intéressant d'un point de vue écologique, c'est pas intéressant d'un point de vue agronomique.
Une remarque en plus par rapport à ça, c'est certainement à beaucoup d'égards mieux, ce serait mieux de couper des arbres de zones jusqu'à 80 ans, mais comment peut-on demander à un système économique comme le nôtre de penser à 80 ans? C'est inconcevable, on est dans une époque où on se flatte de dire bah, le viaduc de Millau, dans 20 ans, il est encore debout. Enfin, quand même, c'est inconcevable pour ce système de penser à 6 mois, tu dis exactement. Donc comment vous voulez qu'il soit capable de penser à 80 ans?
Aujourd'hui encore, c'était le plateau qui parle sur Radio Bassivière. Toutes ces prises de parole ont été enregistrées samedi dernier au café Le Fabuleux Destin à Aubusson, lors d'un débat sur la forêt. Vous pouvez réagir, commenter, nous suggérer des sujets en nous téléphonant à Radio Bassivière, 05 55 64 71 11, ou en nous écrivant un email à info@radiovassivière.com, ou en nous écrivant une lettre, ça marche aussi, à Radio Bassivière, mairie, 23 460 Royère de Vassivière. Ce reportage se retrouvera dans les heures qui viennent sur radiovassivière.com. À demain, 8h30, 12h05 et 17h30 pour un nouveau numéro du plateau qui parle.